odeurs que nous aimons et d'autres que nous détestons. Y a-t-il des nez plus performants que d'autres ou bien avons-nous tous la même capacité à sentir? Y a-t-il une si grosse différence entre la fabrication des parfums de luxe et dans celle des parfums de lessive ou de dentifrice? Notre invitée de ce matin est spécialiste des odeurs, journaliste olfactive. Elle ausculte les senteurs les plus précieuses comme les plus industrielles et vient de leur consacrer un livre à la fois passionnant et émouvant, Par le bout du nez, aux éditions Calman Lévy. Bonjour Sarah Boisse.
Bonjour Charlotte.
Vous êtes journaliste spécialiste des odeurs. Vous écrivez notamment pour la revue Nez. C'est un métier que vous êtes assez peu nombreux à faire, hein, mais qui a l'air absolument passionnant. Vous nous en dévoilez les coulisses dans ce livre très personnel que vous avez sous-titré Une histoire intime des odeurs, parce que c'est vraiment l'histoire de la construction de votre odorat, hein, depuis les odeurs que vous appréciez quand vous étiez petite jusqu'à celles de vos proches disparus, en passant par l'odeur de votre sexe pendant vos règles. On apprend beaucoup de choses sur notre odorat, mais on vous suit aussi dans ce parcours de vie olfactif très touchant. Vous commencez par nous dire, Sarah Boisse, que l'odorat est un sens un peu méprisé, considéré comme mineur par rapport à la vue ou à l'ouïe, alors que d'après vous, il est essentiel. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel de sentir, Sarah Boisse ?
Oui, mais c'est vrai que c'est un sens auquel on pense pas souvent, mais qui en fait ne s'arrête jamais. Depuis notre naissance et même un peu avant, on sent chaque fois qu'on respire, c'est-à-dire quand même environ 20 000 fois par jour. Et c'est un sens qui pour moi a ça de particulier, qui nous relie à la fois au monde de manière très physique, et à la fois il nous relie à nous-mêmes, puisqu'il nous plonge sans arrêt, il nous renvoie sans arrêt à notre propre expérience, à nos souvenirs. Et pour autant, c'est vrai que c'est un sens qui a aussi souvent été dénigré, méprisé. Quand on remonte un peu le temps, on voit que depuis plusieurs millénaires en Occident, l'odorat, il a vraiment une sale réputation en fait auprès des penseurs, des philosophes, des psychanalystes, qui soit n'en parlent pas du tout, comme si ça n'existait pas, soit on donne la vision d'un sens qui n'est pas apte à nous renseigner sur le monde et qui nous ramène à une sorte d'animalité qu'on préfère oublier. Et pourtant, tout ça, on voit que c'est un petit peu en train de bouger, notamment parce que la science, qui a longtemps pédalé dans la semoule avec l'odorat, commence à un peu mieux comprendre ses mécanismes et ses enjeux. Et elle nous démontre en fait que c'est un sens qui a des répercussions énormes sur toutes les strates de notre existence. La cerise sur le gâteau, à mon sens, c'est que le Covid et toutes les anosmies auxquelles on a fait face, nous ou nos proches, ont mis en lumière pour beaucoup d'entre nous à quel point une vie sans odorat, c'est une vie qui est amputée de quelque chose d'absolument immense.
L'anosmie, hein, on précise que c'est justement quand on ne parvient plus à sentir.
La perte de l'odorat, oui.
Ouais. Le premier étonnement que j'ai eu en lisant votre livre, c'est qu'on y apprend que l'être humain est un bon senteur, en fait. Et c'est pas ce qu'on imagine. On se dit, ah oui, c'est plutôt les chiens ou les animaux qui savent bien sentir. Nous, on n'est pas très bien équipés. Vous dites que c'est faux.
Ben c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que les êtres humains sentent mal. Moi, la première, quand j'étais petite, j'étais très intriguée par les chiens que je voyais renifler plein de trucs. Je me demandais à quel point ils pouvaient sentir mieux que nous. Et c'est vrai que les chiens, par exemple, passent pour les renifleurs par excellence, mais on voit que c'est pas forcément les meilleurs senteurs du règne animal. Et que nous, à l'inverse, on se situe plutôt bien, en fait. On sait aujourd'hui que 3% de notre ADN est consacré à coder les récepteurs olfactifs qu'on a au fond du nez et qui nous permettent de percevoir les odeurs. C'est quand même énorme, 3%, hein, quand on songe à tout ce qu'il faut coder dans un corps humain. Chez nous, c'est la deuxième famille de gènes la plus importante après le système immunitaire. Et il me semble quand même que ça en dit long. Après, même sans parler de génétique, on voit bien que chez les humains, on a des œnologues, des parfumeurs. Et c'est bien la preuve qu'avec de l'entraînement, on peut arriver à des choses qui semblent extraordinaires pour le commun des mortels. C'est simplement qu'on a la plupart d'entre nous a tendance à largement sous-utiliser son odorat.
Par contre, vous nous dites quand même que nos nez ne sont pas tous équipés de la même façon. C'est pas qu'on sent mieux ou moins bien, mais on n'a pas le même équipement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bah alors en fait, c'est vrai qu'on sent pas tous de la même manière. C'est un petit peu comme dans le cas des couleurs, qu'on va pas tous voir de la même manière parce que nos rétines sont pas équipées de la même manière dans les trois types de photorécepteurs qui nous permettent de percevoir les couleurs. Bah si vous voulez, en fait, avec le nez, c'est un peu pareil. On a ces fameux récepteurs olfactifs. Il en existe 400 types différents. Et parmi ces 400 types, la répartition est unique à chaque individu. Donc on a plusieurs dizaines de millions de récepteurs olfactifs, mais la manière dont ils sont encore une fois réparti, va déterminer en fait la manière particulière qu'on a de sentir. Donc on peut supposer qu'il y a autant de manières de sentir le monde qu'il y a d'individus.
C'est d'ailleurs pour ça que vous nous expliquez aussi que les personnes qui travaillent dans les laboratoires qui créent les parfums ne travaillent jamais seules parce qu'elles n'ont pas le même nez que leurs collègues. Mathieu Pelletier, vous avez une question pour Sarah Bouas.
Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas du tout scientifique sur la question, mais je me demandais finalement, est-ce que cette technologie de l'odorat est liée à celle du goût? Est-ce que finalement, il y a quelque chose en commun dans la réception des stimuli? Parce que souvent, quelque chose qui goûte fort, peut-être sent fort, ou est-ce que c'est deux choses en fait totalement séparées?
Bonjour Mathieu, et bonjour. Merci pour cette question qui est extrêmement pertinente, puisque c'est vraiment un sujet important, cette question du goût et de l'odorat, puisqu'effectivement, ce qu'on appelle goût, en fait, par abus de langage, c'est surtout une affaire d'odorat. Okay. En fait, le goût, à proprement parler, c'est les cinq saveurs qu'on va se percevoir avec la langue, donc sucré, salé, acide, amer et umami. Mais tout le reste, en fait, c'est de l'odeur. Simplement, quand on met quelque chose dans notre bouche, les fameux récepteurs olfactifs que j'évoquais, qui sont situés au fond du nez, sont atteints par les molécules odorantes par voie rétronasale, c'est-à-dire qu'elle passe par l'arrière de la gorge pour rejoindre le nez. Vous voyez que le nez et la gorge sont reliés. Hein. Quand on a le nez qui coule, ça peut se sentir dans la gorge. Et en fait, finalement, c'est juste deux passages différents pour les odeurs. Certaines rentrent par le nez et certaines passent par cette fameuse voie rétronasale qui est située à l'arrière de la gorge.
Alors, vous nous parlez aussi de ces odeurs qu'on aime ou qu'on déteste. Hein, Sarah Bouas, moi, j'étais persuadée que lorsque je détestais une odeur, c'était une réaction absolument innée. Ça va tellement vite. Mais vous affirmez, en fait, que le fait de trouver une odeur bonne ou mauvaise est absolument culturel. Pourquoi ?
Parce que c'est vrai que les mots, les jugements de valeur qu'on va poser sur une odeur sont très très conditionnés par notre culture. Plus une odeur nous est familière et plus elle est associée à un contexte positif et plus on est enclin à la trouver agréable. Et ça, c'est vraiment très largement déterminé par notre culture, à la fois le pays dans lequel on grandit, mais aussi notre famille, notre expérience personnelle. Je vais prendre l'exemple un peu extrême du durian que je cite dans le livre, qui est un fruit exotique qui est extrêmement populaire en Asie, mais qui est connu pour être nauséabond. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ce fruit, mais c'est vraiment une odeur d'oignon pourri, de jus de poubelle. C'est pas très ragoûtant. Ici en France, en tout cas, on considère que c'est une puanteur. Mais cette odeur, si vous la côtoyez depuis l'enfance, si vous voyez vos parents qui s'en régalent, si vous le considérez comme un fruit noble, non seulement vous allez vous y habituer, mais vous allez probablement finir par la trouver pas si mauvaise. De la même manière, nous en France, on a des fromages qui, à mon avis, rebutent 98% de la population du monde et que nous, on trouve absolument délicieux.
Alors nous aussi, on a tous une odeur personnelle, même si on ne parvient pas forcément à la sentir, justement. D'où vient notre odeur à nous ?
Alors, le sujet de notre odeur me paraît totalement fascinant parce que d'une certaine manière, elle parle de nous. C'est une sorte de millefeuille qui est déterminée par énormément de facteurs différents. Alors, certains relèvent du domaine de l'inné. Hein, notre patrimoine génétique donne à chaque cellule de notre corps un répertoire de protéines unique. Donc, on part avec cette empreinte qui est héritée à la naissance. Mais ensuite, il va s'y superposer beaucoup de choses qui sont du domaine de l'acquis. Notre alimentation, par exemple, qui dépend de notre culture, elle va jouer un rôle déterminant dans l'odeur de notre sueur et de notre haleine. Et puis il y a aussi l'endroit où on vit qui va nous imprégner de ses senteurs, hein, l'odeur de votre chez vous, des paysages dans lesquels vous évoluez. Il y a aussi l'odeur des habitudes que vous avez, des habitudes de vie. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez un chat? Est-ce que vous faites brûler de l'encens chez vous? Et puis il y a tous les produits aussi qu'on va utiliser, le parfum bien sûr, mais aussi la lessive, le gel douche, les crèmes, les shampoings, toutes ces choses-là qui peuvent être en plus des vrais indices sociologiques quand on sait les lire.
Oui, effectivement, il y a un chapitre magnifique où vous parlez des odeurs de vos camarades d'école quand vous étiez petite. Il y a aussi un chapitre formidable sur l'odeur des règles et du sexe féminin. Vous trouvez, Sarah Bouas, qu'on s'en est injustement pris à l'odeur du sexe féminin? Expliquez-nous.
Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet dont il me tenait à cœur de parler parce que l'odeur du sexe des femmes, c'est une odeur dont on nous apprend plus ou moins directement à avoir honte, qui est un peu tabou, même entre femmes en fait. En fait, et je remarque qu'il n'y a aucune raison objective à ça. C'est même un peu absurde hein, quand on pense à tout ce qu'on doit au sexe des femmes. L'odeur de notre sexe, finalement, elle est comme l'odeur de notre corps en général. Elle évolue avec nous et elle est porteuse de messages éventuellement. Donc non seulement je pense qu'il ne faut pas en avoir honte, mais à la limite, il faudrait pouvoir apprendre à la regarder, à l'observer et à la juger pour ce qu'elle est réellement, à savoir éventuellement quelque chose qui peut nous renseigner sur notre état de santé, puisque quand on apprend à se familiariser avec l'odeur de son sexe, on se rend compte qu'on est en mesure de déceler plein de choses, des pathologies ou des maladies notamment.
Alors, vous êtes journaliste spécialiste des odeurs, hein, on le disait, Sarah Bouas. On vous imagine passer votre temps dans des ateliers de parfums extrêmement luxueux, à sentir des odeurs rares et précieuses. Mais en fait, vous nous racontez aussi dans ce livre que finalement, vous trouvez que les odeurs vulgaires, avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire par exemple celles de gel douche, de dentifrice, du savon, sont parfois beaucoup plus intéressantes que celles des parfums de luxe. Pourquoi ?
Ben c'est vrai que c'est des odeurs qui m'intéressent beaucoup, qu'on a tendance, à mon sens, à mépriser un peu injustement, et que moi, personnellement, j'adore aller découvrir, notamment dans les supermarchés quand je voyage, un peu pour me faufiler dans la vraie vie des gens, en quelque sorte. Ce qui est génial avec ces odeurs, pour moi, c'est que, très souvent, elles sont extrêmement spécifiques à la région du monde où on se trouve. Si vous comparez les rayons de supermarchés dans deux pays différents, ça n'aura quasiment rien à voir, alors que les rayons d'une parfumerie de luxe, finalement, seront souvent assez similaires d'un pays à un autre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parfums de luxe sont développés de manière globale, c'est-à-dire dans l'espoir de plaire au plus de monde possible, dans le plus de pays possible. Alors que, à l'inverse, l'odeur d'une lessive, d'un shampoing, d'un yaourt aux fruits, d'un dentifrice, toutes ces petites choses-là du quotidien, elles doivent coller aux attentes spécifiques d'un marché donné. Donc c'est dans ces produits-là qu'on va aller découvrir les odeurs soit les plus exotiques, soit les plus idiomatiques, dans le sens où elles vont nous renseigner sur un patrimoine en fait olfactif.
Vous nous dites notamment
le patrimoine d'une culture.
Ouais, le dentifrice pour nous, il sent forcément la menthe, mais il y a plein de pays où c'est pas du tout le cas. Mathieu Pelletier, vous avez une autre question pour
Sarah Bouas. Oui, vous disiez que l'odorat est un peu le sens oublié par la culture. Moi, ça me fait quand même penser à ce grand livre du parfum de Patrick Susskind. J'aurais aimé savoir quel était votre regard sur ce moment de la littérature qui a quand même donné, pour le coup, une très grande place à l'odorat, mais je ne sais pas s'il l'a fait d'une manière qui est...
Ça ne valorise pas forcément ce sens. Hein. Pour rappel, c'est l'histoire de quelqu'un qui tue des gens pour récolter leur odeur. Hein,
ça parle tout le livre de l'odorat, quoi.
Oui.
Oui. Oui. Bah écoutez, moi je l'ai découvert un petit peu après sa sortie, puisque je crois qu'il date de 85 ce livre. Personnellement, j'ai adoré ce bouquin. Et je trouve qu'il a quand même le mérite immense d'avoir placé l'odorat au centre d'une fiction et d'avoir permis à beaucoup de gens de s'y intéresser. Moi, quand je raconte ce que je fais, c'est très très fréquent qu'on me parle de ce livre. Et donc, ne serait-ce qu'à ce titre, je peux que me réjouir que Patrick Susskind l'ait écrit.
Quand on est un professionnel de l'odeur, Sarah Bouas, comme vous, il y a des centaines, plusieurs centaines, voire des milliers d'odeurs, d'ingrédients qu'on a à mémoriser, une sorte d'alphabet des odeurs. Et une fois, vous racontez hein, d'ailleurs comment vous apprenez toutes ces odeurs. Une fois qu'on a bien mémorisé, on peut les reconnaître au milieu de plein d'autres. Et il y a une méthode bien particulière quand on étudie les odeurs pour les mémoriser. Elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous dit aussi beaucoup de choses sur nous. Quelle est cette méthode, Sarah ?
Oui, je raconte effectivement ça dans ce livre parce que j'ai découvert ça en me plongeant dans l'industrie du parfum et j'ai trouvé que la manière dont les parfumeurs sont amenés à mémoriser toutes les odeurs avec lesquelles ils vont travailler est d'une poésie incroyable en fait. Il s'agit finalement pour chaque ingrédient d'aller découvrir ce qu'elle nous évoque à nous. À quel souvenir elle est rattachée, à quelles évocations elle est rattachée. Et une fois qu'on a découvert, par exemple, que je prends l'exemple de la bergamote. La bergamote, pour moi, c'est... elle me plonge immédiatement dans le pot de thé Earl Grey dans lequel mes parents venaient remplir leur boule à thé le matin. Donc, pour moi, la bergamote, c'est... je la reconnais quand je sens quelque chose et que j'ai cette évocation-là qui me vient. Et donc, l'apprentissage des parfumeurs, il repose là-dessus. C'est sur la conscientisation, finalement, d'associations involontaires qu'on a faites, qu'on porte en nous et qu'on peut exploiter, en fait, quand on les met en lumière, qui nous permettent, effectivement, d'aller déterminer que telle évocation correspond à telle odeur. Alors, donc, c'est un vrai voyage intérieur, en fait. Il y a une dimension presque un peu psychanalytique à cet apprentissage que je trouve dingue.
On vous remercie beaucoup, Sarah Bouas. Comme on peut le constater en vous écoutant, ce livre est absolument passionnant. Ça s'appelle « Par le bout du nez », c'est sorti chez Calman Levy. Il y a du poétique, du personnel, il y a du scientifique, il y a de l'économique aussi. Hein. On se rend compte notamment que ce sont les mêmes sociétés qui créent les parfums de luxe, mais aussi les parfums qu'on retrouve dans nos shampoings. C'est sorti chez Calman Levy, je l'ai déjà dit, par le bout du nez de vous, Sarah Bouas. Merci d'avoir été notre invitée. On s'écoute un petit bout de Lewis Hoffman.
Merci.